juge, ça va aider, on gagnera du temps aussi si vous l'avez déjà relu. Je sais que quelqu'un m'a dit la dernière fois que je n'avais pas cité assez de versets bibliques. Là, je crois qu'on peut me faire le reproche inverse, mais je n'en ai pas fait exprès. Je pense que pour se replonger dans ces textes-là, on va être obligé de lire un petit peu de textes. Donc, voilà, si ça vous semble un peu long, je m'excuse à l'avance, mais c'est quand même une époque qui est rudement différente de la nôtre, tout au moins apparemment. Hein. On retourne là à 3000 ans en arrière, ça fait beaucoup, dans une culture qu'on peut même difficilement imaginer. Et je me suis replongée un petit peu dans les textes des archéologues pour me remettre aussi dans le bain. Oui, Florence me fait signe que notre classe, l'école du dimanche, donc les ados, on va avoir un questionnaire bien méchant pour travailler. Vous vous rendez compte, c'est terrible. Juste pour vous espionner, pour savoir si vous avez bien écouté. Mais bon, c'est pas trop difficile, mais ça va et vous aider à fixer votre attention pour pouvoir répondre aux questions. Voilà. Donc une culture très très différente, c'était la culture du Moyen-Orient des Cananéens. Alors on ne sait pas grand chose sur eux, enfin le commun des mortels en tout cas, j'ai vu que les archéologues maintenant en savaient de plus en plus. C'est un paganisme aussi qu'on a du mal à imaginer. Hein, nous quand on pense païen, on s'imagine, les enfants à l'école entendent parler des Aztèques ou des Incas, on pense peut-être à certaines tribus indiennes aux États-Unis, on va penser en Afrique, ou etc. Mais le paganisme de l'époque de Canaan était inimaginable, de cruauté. Hein, on a retrouvé, j'ai lu ça cette semaine, on a retrouvé des tas de squelettes d'enfants qui avaient été jetés à Moloch, ou sacrifiés à Moloch. Pour vous donner quand même une petite idée, apparemment les Incas ou les Aztèques à côté, c'était pas bien méchant. Donc, imaginez bien cette cruauté, parce que c'est vrai que quand j'étais petite, je me souviens, je commençais à lire ma Bible à 6 ans, parce que j'aimais bien les histoires de l'Ancien Testament, et j'étais horrifiée que Dieu envoie les gens, envoie ses enfants tuer les Cananéens. Oh, comment Dieu peut faire des choses pareilles? On se pose bien la question. On va avoir des réponses tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, c'était un milieu où il était extrêmement difficile de vivre sa foi, parce que le problème du Dieu de la Bible, c'est un Dieu unique, c'est un Dieu parfait, c'est un Dieu saint. Alors ça, c'est problématique déjà. Un Dieu unique, bah eux, ils avaient un Dieu, en fait, par lieu géographique même. Ça, bon, quelque part, les religions chrétiennes ont un peu essayé. Vous avez Notre-Dame de machin, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de... Voilà. Bon, bah, c'était encore pire à cette époque-là. Chaque lieu avait son Dieu et on pensait que si on quittait un certain lieu, on se retrouvait sous l'autorité d'un autre Dieu. Donc ça compliquait les choses. Parfait, ah ben non, là, les dieux païens, ils avaient autant, si ce n'est plus, de vices que les humains. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient été inventés par l'imagination humaine. Et pour moi, c'est une des meilleures preuves de l'authenticité de Dieu, l'éternel Dieu, le Dieu de la Bible. C'est que jamais un humain n'aurait imaginé un Dieu aussi loin de nos défauts et de nos problèmes. Toutes les nations, dans tous les pays, autant que je sache, et j'ai beaucoup, beaucoup lu, je m'amuse beaucoup à lire les livres d'histoire des différents pays à différentes époques pour voir. Jusqu'à présent, j'ai rien trouvé qui va dans l'autre sens. Il est clair que les gens ont inventé des dieux avec leurs défauts, avec leurs passions, avec leurs vices. Alors, ils vont jusqu'à se manger entre eux. Voilà, c'est Marduk, etc. Donc, l'imagination humaine fait des dieux qui nous ressemblent. Voilà. Et c'est un petit peu la tendance, encore aujourd'hui, j'étais amusée au temps de Mitterrand, d'entendre des gens dire « Ouais, il a fait ça et ça, mais au moins, il est comme nous ». Donc la nécessité d'avoir quelqu'un, un président ou voilà, un dieu pour ce qui est des dieux, comme nous, avec les mêmes défauts. On se sent bien plus à l'aise. Donc l'idée d'un dieu sans défaut, complètement mis à part, ça est saint. Alors j'aime pas trop ce mot-là parce que je crois qu'on a perdu le sens. Saint, ça veut dire mis à part et consacré. Donc c'est quelque chose de très spécial. Donc déjà ça, c'était compliqué, vivre la foi dans un dieu unique, parfait. Et invisible. Non, mais là, c'était fort quand même. Avec un peu de bon sens, ils n'auraient pas inventé un dieu invisible. Franchement. Et tout ça réuni, ça fait beaucoup. Et ça dépasse l'imaginaire humain, parce que nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et les dieux de Canaan étaient visibles. Horribles. Cruels. Pleins de vices. Et ils exigeaient des sacrifices humains. Ils exigeaient la prostitution sacrée, etc. etc. Donc, vivre dans un milieu comme ça, c'était pas simple. Donc il faut bien se remettre dedans, sinon on risque de déformer ce que je vais dire après. Et ce que dit la Bible surtout. Alors vous allez me dire, mais alors avec tout ça, et je pense aux ados aussi, vous allez me dire, bon bah dis donc, quel est l'intérêt de revenir sur ces vieilles histoires, hein? 3000 ans, tu viens de dire que c'est pas la même culture, que c'est pas la même religion, c'est pas... Quel est l'intérêt? Alors, il y a un verset sur lequel je me suis toujours basée quand j'ai travaillé la Bible, c'est 2 Timothée 3,16, qui dit « Toute écriture, avec un E majuscule, il s'agit de la Bible, est inspirée de Dieu et utile. » Ah, utile, des trucs comme ça. « Pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. » En français moderne, on dirait à la hauteur. « Parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. » Donc ça nous équipe d'entendre ces histoires-là. Ah oui, tu trouves? Bon. 1 Corinthiens 10, 11 dit « Tout cela leur est arrivé », il parle de l'Ancien Testament, donc de la première partie de la Bible, « Tout cela leur est arrivé à titre d'exemple ». Ah, ça c'est le mot-clé, « à titre d'exemple ». Et ça a été écrit pour nous avertir, à titre d'exemple. Et quand on étudie l'Ancien Testament, je crois qu'on peut se permettre de dire « c'est un petit peu comme des paraboles ». C'est un petit peu comme des choses, c'est des choses qui ont existé, je vous dis, puisqu'on retrouve encore des squelettes, on retrouve encore des autels, on retrouve encore des tas de choses, et on continue à en retrouver. Mais ça nous sert d'exemple, à titre d'exemple pour nous avertir. Nous avertir de quoi? Eh bien, de ne pas faire les mêmes bêtises. Et les hommes ont toujours aimé ça, hein. Des histoires qui ont une morale. Et... Ouais, je peux peut-être déjà en parler maintenant, mais Dieu veut qu'on soit équipé et averti. Alors, pourquoi et quel est le rapport avec une époque aussi éloignée? Parce que Dieu est toujours le même. Les cultures ont changé, les dieux des nations ont changé, les façons d'adorer leurs dieux ont changé, fort heureusement. Mais Dieu est toujours le même. Et le cœur de l'homme aussi, il est toujours le même. Et la vie et les relations entre les hommes n'ont pas changé. Oh, quand même, on est quand même plus policé qu'à cette époque. Oui, enfin, si vous lisez les journaux, vous vous posez la question. Je suis en train de m'intéresser à... C'est tombé comme ça, j'en ai pas vraiment fait exprès, mais sur YouTube, j'ai vu beaucoup de témoignages de femmes battues. Et je m'y intéresse un petit peu au problème, parce que je connaissais pas l'ampleur du problème. Et c'est là que je me dis bizarre. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet. Donc ces choses sont là pour nous servir d'exemple. Il y a des vérités qui ne vont pas changer avec le temps. 3000 ans et les vérités sont les mêmes. Alors on va prendre un exemple laïque, un exemple non chrétien. Les fables d'Ésope, 6e siècle avant Jésus-Christ, à peu près à l'époque d'Ésaïe, hein, pour vous donner une idée. 6e siècle, les fables d'Ésope, elles ont été reprises par un certain monsieur de La Fontaine, que tout le monde connaît, dans un français du 17e siècle. Comment se fait-il que dans nos écoles primaires, on apprenne encore les fables de La Fontaine par cœur? En plus, dans un français qui n'est pas facile, hein? Maître Corbeau sur un arbre perché, etc. Et puis tout le monde, et puis nous, on en sait des morceaux. Il y a même des gens, je suis dans l'église, qui en connaissent des fables entières. Moi, j'ai pas suffisamment, bravo Rémi, moi, j'ai pas suffisamment de mémoire pour ça, mais j'en ai appris pas mal. Et puis, les vérités qu'elles expriment, on s'aperçoit qu'elles sont toujours d'actualité. Ésope, 6e avant Jésus-Christ, La Fontaine, 17e siècle, et aujourd'hui, on les apprend à l'école. Pourquoi? Parce que les vérités qu'elles expriment sont toujours les mêmes. L'homme n'a pas changé, vous vous rendez compte? Le fond et les relations entre les hommes n'ont pas changé. Et puis, les morales. Ah, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, le lion et je ne sais plus quoi, la souris, etc. Bon, voilà. Tel épris qui croyait pas. Enfin, tous ces trucs, on les cite en proverbe, on en parle, parce que le cœur de l'homme est toujours pareil. Alors voilà pourquoi, quand on lit la Bible, en fait, c'est un petit peu la même chose. J'espère que Dieu me pardonne cette comparaison entre les femmes de la fontaine, d'Ésope et la Bible. Mais quelque part, elle exprime aussi un exemple avec une morale et il y a un message à chercher. Alors, si on lit comme ça, finalement, ça va être un peu plus difficile à trouver le message. Et il y a un livre dans la Bible qui est vraiment compliqué, c'est le livre des juges. Je me suis posé la question souvent, parce que moi, je l'ai lu, je me souviens, c'était juste... Non, je crois qu'on commençait à se fréquenter. Et on faisait un stand biblique, et j'étais en plein sur les juges, et j'étais là. Oh non, c'est démoralisant ce bouquin. Comment Dieu a pu laisser ce livre dans la Bible ? Les choses ne sont pas claires et nettes. Il n'y a pas un moment où Dieu dit « ça c'est mal, ça c'est bien ». Et il raconte le cœur de l'homme et toutes ses déviances. Oh, mais c'est affreux, c'est démoralisant. En plus, à l'époque, au stand biblique, on se faisait taper dessus, donc ce n'était pas très encourageant. Et donc j'en ai un assez mauvais souvenir, mais effectivement, avec le temps, je m'aperçois que c'est un livre qui a un message. Et il faut le chercher, ce message. Eh bien, on va y travailler. Le message de Dieu, lui, n'a pas changé, quelles que soient les mœurs, les coutumes, les habitudes, les langages, les façons de vivre. Le message est toujours le même. Fondamentalement, mon père, qui était un petit chrétien, comme j'ai expliqué il n'y a pas très longtemps, les gens savent pourquoi je dis ça, ceux qui l'ont écouté, il se considérait comme ça. Il avait toujours ce motto, avec Dieu, c'est pas très compliqué, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est pas compliqué, cherchez l'Éternel, car il est prêt de tous ceux qui l'invoquent. Voilà, il a vu une fois à l'épreuve de tout, parce qu'elle était très simple, mais ça marche. Alors, pour comprendre le livre des juges, on va juste revenir un petit peu en arrière à Josué 23, parce que c'était la fin. Donc, alors, pour ceux qui connaissent pas très très bien, si vous avez lu Le Prince d'Égypte, si vous avez vu Le Prince d'Égypte en DVD, vous savez de quoi je parle. Mais en gros, le peuple, Joseph, à cause de problèmes avec ses frères, a été vendu comme esclave en Égypte. Et à la suite de tout un tas de péripéties, toute sa famille est allée en Égypte. Et j'allais dire bêtement, c'est pas gentil, mais ils sont restés au lieu de repartir après la famine parce que c'était confortable et parce que la vie chez les Égyptiens était autrement plus agréable que la vie de nomades dans le désert. Je crois que ça, on peut le comprendre, c'est clair. Et évidemment, au bout de 400 ans, les choses se sont tellement mal passées que Dieu leur a suscité un libérateur. Ils étaient esclaves, ils ne pouvaient plus sortir. Et c'est Moïse qui va les faire sortir d'Égypte avec une série de miracles. Les 10 plaies, la dernière où les premiers dés meurent. Dieu avait pourtant prévu une solution pour éviter ça, s'ils avaient eu la foi. Il y a des Égyptiens qui l'ont fait, qui ont mis le sang sur leur poteau et leurs enfants ne sont pas morts. Ils sortent et ils vivent dans le désert pendant un certain temps. Et puis Josué va être celui qui va les conduire dans le pays promis, qui était en fait le pays de départ d'Abraham. Voilà, donc je vous ai peint le tableau. Et Josué, là, dans ce chapitre, il arrive au bout de sa vie. Et on va regarder un peu ce qu'il dit au peuple d'Israël avant de mourir. Il leur laisse un message. Beaucoup de temps s'était écoulé depuis que l'Éternel avait accordé du repos à Israël en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Josué était vieux, d'un âge avancé. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, d'un âge avancé, et vous avez vu, c'est très important de se rappeler, vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à ces nations à cause de vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui restent à conquérir, à partir du Jourdain et à toutes les nations que j'ai exterminées, etc. Verset 5. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera loin de vous. Il les dépossédera devant vous et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Alors là, on peut coincer. Se dire, ouais, non, non, ça c'est de la conquête, quoi. Allez, on chasse les gens, mais ça se fait plus, ça. Alors, il y a quand même une explication. Dans Deutéronome 9, versets 4 à 6, et là j'y viens parce que je pense que sinon ça va un petit peu bloquer notre compréhension. Deutéronome 9, versets 4 à 6, Dieu s'adresse à son peuple et il lui dit, reconnais aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marche devant toi, etc. Comme un feu dévorant, c'est lui qui les détruira. qui les humiliera devant toi, tu les déposséderas et tu les feras périr promptement. Oh, quelle horreur ! Hein ? C'est notre réaction humaine. Mais moi, j'aime bien la suite et on n'en parle pas souvent. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les repoussera devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Ça, c'est important, hein ? Je suis sûre que ce verset, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui le connaissent. Je l'ai redécouvert, moi. Ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu rentres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à ton père Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas à cause de ta justice. Parce que parfois on se dit, oh non, là c'est pas juste. Hein. Dieu, il se choisit un peuple et puis il fait plein de bêtises, mais quand même, il peut écraser les autres. Ce n'est pas à cause de la justice d'Israël. Et quand Dieu nous donne des bénédictions, quand Dieu prend soin de nous, ce n'est pas à cause de notre justice. C'est à cause de celle de Jésus, certes, mais pas la nôtre. Hein. Donc, gardons ça à l'esprit, la méchanceté. Alors oui, le verset... Je ne l'ai pas vu ici, c'est à cause de la méchanceté de ces nations. Mais il y a un autre verset qui dit « L'iniquité des Cananéens avait atteint son comble. » L'iniquité des Cananéens, c'est-à-dire le péché, la méchanceté de ces peuples avait atteint son comble. Et quand nos archéologues font des fouilles, ils sont les premiers à reconnaître que c'était des gens invivables. Enfin, quand vous pensez que jeter son premier-né dans un brasier, c'est quand même chaud quand même, hein, c'est le cas de dire, j'en ai pas fait exprès. Mais franchement, il y a de l'abus quoi, il y a de l'abus. La méchanceté de ces gens avait atteint leur comble. Et les peuplades en plus, qui sont au niveau de la Syrie, non pas la Syrie, mais la Syrie, en plus quand ils faisaient la guerre, non seulement ils tuaient leurs ennemis, mais non, il fallait les faire souffrir. Ils les empalaient, ils les amoncelaient vivants. Enfin, j'ai lu des horreurs... par des archéologues hein, qui n'ont rien à prouver, qui simplement ont fait des recherches. Et on comprend que Dieu arrive à un moment, dit là c'est trop quoi. Tous ces enfants qui souffrent, tous ces gens, cette cruauté monumentale, leur méchanceté était arrivée à son comble. L'iniquité des Cananéens avait atteint son comble. Et malheureusement, parfois on voit des pays comme ça qui souffrent parce qu'ils ont vraiment abusé de l'injustice, de la cruauté, de la méchanceté. Alors on n'est pas Dieu pour en juger. Mais c'est ce que dit la Bible. Et je le crois d'autant plus volontiers qu'on en a même les preuves aujourd'hui. Donc, il faut garder ça présent à l'esprit. Alors, on va reprendre Juge pour se remettre. Là, on s'est mis dans le bain. On voit un peu dans quelle époque on est. Alors, là, on arrive. Le peuple est rentré dans le pays promis. Ils ont eu victoire sur victoire. Bon, il y a eu quelques petits problèmes, mais globalement, victoire sur victoire. Ils sont montés, si vous voyez le pays d'Israël dans vos yeux, vous voyez, ils sont arrivés par le sud, et ils sont montés. Et il était prévu un territoire pour chaque tribu. Donc, il y avait un partage qui a été fait. Et ça fait du bien, dites donc, hein, quand vous êtes sortis de l'esclavage, et que, enfin, vos parents en tout cas, et puis 40 ans dans le désert, tous les grands-parents ne sont plus là, les parents... Il a fallu qu'ils rentrent dans le pays, qu'ils fassent la guerre. Enfin, on s'installe. Après des années de guerre, d'errance, de peur. Ça ne devait pas être drôle. Hein. Il y avait plein de tribus nomades qui étaient extrêmement agressives, qui profitaient aussi de ces gens qui tournaient. Enfin, on a un pays. Enfin, on a un lieu. Dieu a exécuté sa promesse. C'est formidable. Et puis, ils n'avaient pas tout à fait fini quand Josué est mort. Et ils ont dit, verset 1, « Qui de nous montera d'abord ?» Ils consultèrent l'Éternel. Ça commence vraiment bien le livre des juges. Ils consultent leur Dieu. « Qui de nous montera contre les Cananéens pour les combattre ?» Parce qu'il y avait encore des poches de résistance un peu partout. L'Éternel répond « Juda ». Juda, en effet, était la tribu, ce sera la tribu de David d'ailleurs, tribu royale. Et Juda monte. Et Dieu leur dit « J'ai livré le pays entre ses mains. » Il en parle avec son frère Siméon et les deux tribus s'unissent. Et là, vous avez une série de victoires. Ils battirent, ils frappèrent, ils poursuivirent. Ah, il y a même un truc qui est un peu horrible. Ça montre un peu d'ailleurs comment ça se passait en ce temps-là. Un certain Adoni-Bézek prend la fuite d'un roi. Ils le poursuivent et le saisirent. Et comme la Bible est toujours très concise, il dit, ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Pas sympa, hein? Mais lisez la suite. Si on s'arrête là, on ne comprend pas. Et lui-même, le fameux Adoni-Bézek, qu'est-ce qu'il dit ? 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient les restes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. Ah, il était quand même intelligent, ce bonhomme, moi, je trouve. Il a compris. Et je pense que les Cananéens étaient peut-être plus malins que nous. Ils comprenaient bien que s'il leur arrivait ces problèmes avec ces tribus qui montaient, c'est que, bah, quelque part, comme on dit, pain béni, ou un donné pour un rendu, ou ce que vous voulez, il y avait quand même un jugement de Dieu sur ces gens. Et ce n'est pas un hasard s'ils lui ont fait ça, c'est parce que lui, il l'avait fait aux autres pendant des années. Donc ça, c'est important. Mais vous voyez, dans les livres des juges, c'est toujours un petit peu comme ça. On ne vous donne pas d'explication, on vous raconte, pouf, un événement, et c'est à nous de faire le rapprochement. Là, le fameux Adoni-Bézek apparemment avait compris que j'ai passé les limites. Bon, alors on continue. Les fils de Juda attaquèrent, s'emparèrent, descendirent pour combattre, et j'avance, hein, je donne juste les verbes. Ils battirent, il marcha contre les habitants d'eux, etc. On a la merveilleuse histoire de la fille de Caleb. Là, pareil, la Bible ne fait pas de commentaires, mais ça nous en donne un peu un rayon sur comment les femmes qui étaient fidèles à Dieu avaient leur place. Quand même. Il dit, je donnerai ma fille pour femme à celui qui battra telle et telle ville. Othniel, qui était un neveu en fait de Caleb, s'en empare. Caleb donc lui donne sa fille pour femme. Et à son arrivée, elle, verset 14, elle incita Othniel, donc son mari, à demander un champ à son père. Mais elle va plus loin. Elle saute de son âne. C'est marrant, c'est le mouvement. Et Caleb lui dit, mais qu'est-ce que t'as ? C'est pas tout à fait normal. Là, elle n'est pas restée dans son coin, bien sage, à dire merci, tu m'as donné un mari super. Non, non. Elle lui répond, accorde-moi une faveur. Tu m'as donné une terre du Midi. Elle avait quelque chose dans la tête. Hein. Elle savait comment ça fonctionnait, l'agriculture. Donne-moi aussi des fontaines d'eau. On est dans un pays chaud. Elle savait ce qu'elle voulait. Et c'est pas pour rien si son histoire est là, entre toutes les victoires. Elle venait d'une famille, c'était la famille des deux seuls espions, d'un des deux espions qui avait dit « on peut y aller, Dieu sera avec nous ». Ah, il y avait du sang, un sang neuf dans cette famille, c'est extraordinaire. Bon, ça serait un peu trop long à raconter, mais c'est impressionnant de voir que la Bible parle de cette femme et de son dynamisme au milieu d'une série de victoires. Bon, les victoires continuent, et puis on arrive au verset 19, là il y a un grain de sable. « L'Éternel fut avec Juda qui se rendit maître de la montagne, mais... » Donc après 18 versets de positif, mais il ne put déposséder les habitants de la vallée parce qu'ils avaient, oh tiens, on a une excuse, parce qu'ils avaient des chars de fer. Alors bon, les historiens vous expliqueront que les Cananéens étaient déjà bien dans l'âge du fer, ils savaient travailler le fer, et que les Israélites étaient encore un petit peu dans l'âge du bronze, pas aussi solide, pas aussi coupant, pas aussi efficace. Bon. Donc c'est tout à fait, vous voyez comme quoi la Bible est parfaitement dans le coup au niveau historique. Et problème, comment ça se fait que c'est des chars de fer qui les ont arrêtés ? Ah, j'ai pas pu les combattre, ils avaient des chars de fer. Ce qui est bizarre, c'est que quelques temps après, plusieurs années après, il y a une certaine Déborah, encore une femme, dans les juges, hein. C'est un livre ça. Une certaine Déborah qui se retrouvait en face d'une armée avec des chars de fer. Et qui a dit, Dieu a dit, on y va. Ils ont prié. Et le chef de l'armée, oh non, Déborah, si tu ne viens pas avec moi, bon, je vais venir avec toi. Ils y vont. Et qu'est-ce qui se passe ? Dieu provoque un orage épouvantable. Et les chars de fer s'embourbent. Et la victoire était acquise. Donc, est-ce que vraiment l'obstacle était les chars de fer ? On peut se poser la question quand on lit l'ensemble du livre. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Et puis là, on arrive sur tragédie. Les fils de Benjamin, et on n'a plus que des négations maintenant, ne possèdèrent pas. Et la conclusion, les Yébousiens ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem. En fait, visiblement, là, ça nous permet de savoir que le livre a été écrit avant David, parce que David va être celui qui va libérer Jérusalem. Donc voilà, ça nous donne une petite idée de la date de rédaction du livre. Bon, la maison de Joseph monta, etc. L'Éternel fut avec eux, mais bon, Ils réussissent par traîtrise, un petit peu embêtant. Manassé ne déposséda pas, verset 27. Et les Cananéens voulurent rester dans le pays. Éphraïm ne déposséda pas, verset 29. Zabulon ne déposséda pas les habitants, et ils habitèrent au milieu, mais ils furent astreints à une corvée. Oh, ça va être intéressant. Aser ne déposséda pas les habitants, ni les habitants de Sidon, etc. Et ainsi de suite, on peut continuer. Défaite sur défaite sur défaite. Et les derniers versets, c'est pire. Non seulement ils dépossèdent plus, ils repoussent plus les gens, mais ils se font déposséder, ils se font chasser. Ah! Il se passe quelque chose là. Déjà dans la génération, la première génération qui finit de s'installer, il y a un problème. Alors je ne sais pas si je peux parler maintenant, peut-être, oui. Bon, j'y reviendrai parce que j'aurais voulu faire un sketch. J'en parlais hier à Samuel, je dis si tu avais été encore là, on aurait fait un super sketch là-dessus. Mais voilà. Donc je vais simplement vous dire comment je ressens ce texte. Visiblement, la foi du peuple baisse. On le voit hein, au cours de ce chapitre, avec simplement en regardant les verbes. Et on va arriver à un moment où Dieu va envoyer un envoyé de l'Éternel. On ne dit pas qui c'est. Et il dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'avais promis par serment. Et j'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Ça, c'est cohérent dans toute la Bible. Dieu est un Dieu d'alliance. Et lui ne rompt pas son alliance. C'est une sécurité extraordinaire. Et vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez pas écouté. Aïe. Et j'aime beaucoup. Alors là, c'est une image extraordinaire de Dieu. Il y avait de quoi se fâcher, comme le jour où Adam a tout fiché par terre. Et comment Dieu réagit? Et c'est là que voit la différence énorme entre le Dieu de la Bible et les dieux païens. Il dit, pourquoi avez-vous fait cela? Bien sûr qu'il le sait, mais il veut les faire réfléchir. Dieu est un Dieu qui veut nous faire réfléchir. Pourquoi avez-vous fait ça? Dans la Bible, c'était « Où es-tu, Adam ?» Et il y a aussi cette question « Pourquoi as-tu mangé de l'arbre ?» Et quand on fait des bêtises, surtout, je le répète à chaque fois, vous savez, bon, les grands-mères se répètent, en plus, l'instinct des enseignants, c'est de se répéter, donc voilà, je cumule tout là maintenant. Mais je me répète que c'est important. N'imaginez jamais que quand vous faites une bêtise, Dieu vous attend au coin du bois avec un bâton, je le dis à chaque fois. N'imaginez jamais ça. Mais il vous attend avec une question. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Quelle est la motivation profonde? Quel est le problème? Gardez toujours ça présent à l'esprit. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, eh bien, je ne les chasserai plus devant eux. Parce qu'en fait, c'était lui qui les chassait. Mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Alors là, c'est pareil que si vous sortez sans parapluie, vous serez mouillé. Ce n'est pas une malédiction, c'est l'évidence. Et là, c'est pareil. Ce n'est pas que Dieu s'est dit « Ouh, chouette, les dieux étrangers vont devenir un piège. » Mais c'est une évidence. Si vous n'appuyez pas sur Dieu, vous n'aurez pas le choix. Ils étaient entourés de temples, d'autels, de statues. C'était terrible, hein, on les retrouve dans les fouilles. Comment est-ce qu'ils allaient résister à cette tentation? Ils faisaient des fêtes gigantesques. Bon, il faisait des alliances. Ok. Et lorsque l'envoyé de l'Éternel lui dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple éleva la voix et pleura. Bon, là, il me gêne ce passage, moi. Le peuple pleure. Bon, il a compris, c'est déjà ça. Mais j'attendais autre chose, moi, derrière. Et ils se repentirent, ce que vous avez dans des tas d'autres textes. Ils pleurent. Ça ne suffit pas. Est-ce qu'ils connaissaient suffisamment Dieu pour savoir qu'en demandant pardon, les choses allaient changer? Et que Dieu changerait d'avis aussi? Mais bon, ils ne bougent pas, ils pleurent. Ça ne suffit pas. Alors là, je reviens, malheureusement, je suis marquée en ce moment par mon YouTube. Là. Les hommes qui battent les femmes ont la même réaction. Ils pleurent beaucoup. Mais il n'y a pas de repentance. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, qui veut dire les larmes. Et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Ah, ça, j'aime pas trop non plus. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et justement, les dieux païens, c'est comme ça qu'on les rend favorables. On leur donne des sacrifices pour les calmer. On sacrifie son premier-né. Non mais dites, oh, on donne ses enfants, on jette ses enfants dans le feu pour que le Dieu se calme et qu'il permette qu'on ait des bonnes récoltes et qu'on ait la victoire, etc. Ouais. Josué renvoie le peuple. Et là, on a une deuxième introduction qui correspond à la première, où il est encore expliqué qu'ils abandonnent l'Éternel, verset 12, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père. Pourtant, ils les avaient fait sortir du pays d'Égypte, ils se rallièrent à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples. Ils abandonnèrent l'Éternel, rendirent un culte à Baal et aux Astartés. Non mais, comment ils en sont arrivés là? Et Dieu les vendit entre les mains de leurs ennemis, puisque vous voulez une alliance avec vos ennemis, ben, ça va être fait. Ok, donc on est vraiment dans un moment extrêmement difficile où les choses, cette génération-là perd sa communion avec Dieu, fait des compromis avec les païens du lieu, alors que les paroles étaient claires, vous ne conclurez pas d'alliance, vous renverserez leurs autels et vous n'avez pas écouté ma voix. C'est sûr que mettez-vous à la place de Dieu un tout petit peu. Des autels où on sacrifiait des êtres humains, ça ne pouvait pas lui faire plaisir et je pense qu'on serait tous d'accord pour les renverser, ce genre d'autels. Hein. Quand même. Alors, la deuxième introduction nous dit aussi que le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué. Et trois fois dans la deuxième introduction, donc là à partir du chapitre 2, trois fois on va parler de problèmes de génération. Et ça, c'est intéressant. Tout le temps des anciens qui ont survécu à Josué, ça c'est ce qu'on dit ici, c'est encore resté bon. Il y avait encore la foi. Et puis, c'est les générations suivantes qui ont eu des problèmes parce qu'elles n'avaient pas vu les grandes œuvres que l'Éternel avait accomplies. Voilà le problème. Ces générations, et là on arrive au chapitre 3, ce fut uniquement pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre, ceux du moins qui ne l'avaient pas connu avant. On arrive sur une génération, alors il y avait la génération qui a quitté l'Égypte, qui est morte dans le désert, puis la génération qui est rentrée dans Canaan, après les 40 ans dans le désert, et puis il y a la génération d'après, qui s'est installée un petit peu confortablement. Alors, ce petit sketch dont je vous parlais va illustrer ça. Il s'éleva après elle une autre génération, verset 10, qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Hein, il n'y avait pas de médias, mais le téléphone arabe marchait très bien. Oui, bien sûr, il connaissait. Ah, dis donc, grand-père ou grand-mère, elle nous rabâche, machin, que son grand-père est sorti d'Égypte. Oh là là, on en a marre d'entendre parler de ça. Ah oui, oui, ça y est, tu vas recommencer avec ta sortie d'Égypte. Ah oui, puis en fait, c'était vraiment la mer ou c'était juste des marécages, hein? Voilà, cette génération qui n'avait pas vu et qui commençait à trouver c'était un peu lourd de parler de la sortie d'Égypte, hein? Mettons-nous à leur place. Alors, abandonné par son peuple, Dieu lui se retire. Et j'allais dire malheureusement, oui. Mais non, heureusement, quelque part, Dieu est gentleman. Il ne vous forcera jamais. Contrairement au diable qui... Vous savez, quand il prend quelqu'un par la drogue, c'est dur de l'en sortir. Hein. Demandez au gouvernement, ils se battent, mais ce n'est pas facile. Quand il prend possession de quelqu'un, ce n'est pas facile. Mais Dieu, tu ne veux pas? Je m'en vais. Il est gentleman. Ça, c'est merveilleux. D'ailleurs, ça aussi, pour moi, c'est la preuve d'authenticité. Dieu est Dieu. Il est suffisamment fort et grand pour ne pas chercher à s'imposer par la force. Donc, il ne chassera pas leurs ennemis. Israël devra vivre avec ses peuples et du coup, il va subir les conséquences de la cohabitation. Et quelque part, c'est Arnold que Colette a écouté cet été, dit ceci, « Le peuple qui voulait faire confiance à ses peuples saura confier à ces peuples-là pour son malheur. Ce n'est pas un désastre instantané, mais les conditions sont réunies pour une calamité future. La religion des Cananéens va polluer complètement la morale, l'éthique d'Israël, et leur soif de domination va humilier complètement les Juifs. Une oppression politique, l'immoralité, le paganisme vont être les problèmes majeurs. » Alors, juste pour revenir au problème de génération, ce petit sketch, je me suis un peu amusée là. J'imagine la dernière génération qui parle à la génération précédente. Dis bon, écoutez, vous nous fatiguez là, avec votre sortie d'Égypte. Ok, c'était loin, hein. C'était les arrière-grands-parents, les grands-parents, ils ont vu, ils ont. Bon, mais maintenant, regardez. Dieu nous a amenés, bon, on met Dieu dedans, hein, ça fait mieux. Dieu nous a amenés dans ce pays où, soi-disant, hein, coule le lait et le miel, et c'est vrai, on a des bonnes récoltes, on est heureux, etc. Mais écoutez, là, les parents, vous y êtes pas. Je vais moderniser un peu le texte. Vous y êtes pas. Vous êtes encore dans vos vieux trucs. Mais non, c'est pas de la bonne gestion. Comment gérer ce patrimoine que Dieu nous a mis entre les mains? Mais vous vous rendez pas compte? Vous chassez les gens. Et on se retrouve, nous, avec des villes dévastées. Il faut les reconstruire. Vous croyez que c'est de la bonne gestion, ça? Non, mais le management, là. Non, mais c'est pas possible. Alors, j'ai dit à Samuel, ça aurait été bien si tu avais pu faire là, avec le vocabulaire. Moi, je n'ai pas le vocabulaire du management. Essayez de l'imaginer, ceux qui le connaissent. C'est pas du bon management. On arrive dans une ville détruite. Donc, alors, nous, il faut qu'on s'enquiquine à tout reconstruire. Ensuite, on arrive là, il n'y a pas de forgeron. Vous n'utilisez pas les ressources que Dieu met à votre disposition. Ces forgerons, ils nous faisaient des armes formidables. Et les socs des charrues. Vous avez vu la terre comme elle est dure là? Non, mais ils ont des socs de charrues. Et vous n'en profitez pas. Vous les chassez. Mais non, mais ça ne va pas. Moi, je les garderai, les forgerons. Puis les tisserands. À nous, il faut qu'on se charrie tout et qu'on remette nos métiers à tisser, etc. Mais ils avaient tout, ces gens-là. Non, mais attends, c'est au niveau commercial, en plus, c'est insensé. Toutes ces caravanes de commerçants qui passaient là dans la ville, on n'a rien à leur donner, hein, des pierres. Non, mais enfin, les parents, vous ne vous rendez pas compte, là. Vous y êtes vraiment pas. Écoute, Dieu nous a dit, on obéit à ce que Dieu nous a demandé. Ouais, bien sûr, mais Dieu vous a-t-il réellement dit? Vous connaissez cette petite phrase? Elle date de la Genèse. Dieu vous a-t-il réellement dit? Parce que Dieu veut notre bien. Il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on utilise toutes les ressources qu'il met à notre disposition. Donc voilà, les parents, on a un truc super pour vous. Il ne faut pas les chasser, il faut simplement leur donner des impôts. Macron serait d'accord. Des impôts, des taxes, ça marche ça. En plus, nous on profite, on a des commerces, on a des tisserands, on a des potiers. Et puis au moment des moissons, là, on se crève, là. Mais non, on leur fait faire les corvées. C'est eux qui vont aller couper le blé, qui vont le battre pour sortir le grain. C'est eux. Et nous, on profite du pays du lait, où coule le lait et le miel. Ah, quelle bonne idée. Alors, je pense que j'exagère un tout petit brin, mais peut-être pas tant que ça. Parce que vous savez, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit... Pourquoi est-ce qu'ils les ont assujettis? S'ils avaient la force militaire pour leur dire « faites ça », puis ils le faisaient, payer ses impôts, ils les payaient, ils avaient aussi la force militaire pour leur dire « Dieu vous a chassé ». Et il aurait même leur expliqué pourquoi, puisque Dieu leur a dit pourquoi il les chassait. Non. Ils les ont assujettis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que petit à petit, dans le village d'à côté, ils ont entendu dire qu'il y avait des révoltes et que les Cananéens ont retourné la situation. Personne n'a envie d'être esclave, personne n'a envie d'être assujetti et d'avoir des tas d'impôts. Et petit à petit, ils ont repris du poil de la bête et c'est les Israélites qui se sont retrouvés assujettis. Ah, c'est comme ça que j'ai compris, j'ai dit, ah voilà, comment ça a bien pu se passer, parce qu'au lieu de leur dire, allez, on vous poursuit, on vous chasse comme Dieu l'avait demandé, on a fait des compromis. Ah, Dieu les a laissés à leurs bonnes idées. Et on va se retrouver dans le livre des juges à un tas de cycles que Mathieu Arnold appelle les 5 R. Ça n'a rien à voir avec les 5 R de la maison d'Élie ou du TQP, mais le peuple va sans arrêt passer dans un cycle de rébellion à Dieu. Oh là, il nous fatigue. On va faire à notre idée, hein. Ruine, forcément. Éloignement de Dieu. Puis un deuxième cycle où ils se rendent compte que, oh là là, on a gaffé. Repentance, ils demandent pardon à Dieu et naturellement Dieu revient vers eux, prend soin d'eux, leur pardonne, un temps de rédemption et puis un temps de repos. Alors, au cours du livre des juges, vous allez voir, c'est 80 ans d'abord de repos, puis après c'est 40, puis à la fin du livre, il n'y a presque plus de temps de repos. Parce que ce cycle leur permettait d'être de plus en plus mauvais, de plus en plus désobéissants. Et ça, on le voit dans un verset. Je crois que là, je suis un peu perdue dans mes notes. Mais le verset qui dit « Ils étaient encore plus rebelles que leur père. Ils allaient beaucoup plus loin que leur père. » Et à chaque cycle, ils devenaient un peu plus mauvais. Un peu plus désobéissants. Un peu plus moqueurs de la loi de Dieu. Et ça a fait vite. Au bout de quelques générations, il n'y a même plus eu de repos. Donc ce cycle, tout le monde le connaît, ce cycle des juges, va se recommencer. Alors Dieu leur suscitait un juge, ça a été Déborah, ça a été Othniel d'abord, puis il y en a eu d'autres, puis il y a eu Samson, il y a eu Déborah. Déborah était dans les premiers, Gédéon, et puis Samson, c'est déjà pas une trouvaille, et puis voilà. Ça s'est aggravé. Voilà le verset. À la mort du juge, c'est chapitre 2, verset 19, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père. Donc non seulement il y avait ce cycle, mais comme on dit, il y avait une spirale descendante. Le cycle tournait, mais il y avait une spirale descendante. Dieu savait très bien que si on ne chassait pas l'ennemi, on va faire des alliances avec l'ennemi et on va tomber dans la même idolâtrie. Alors vous allez me dire, oh, c'est bien joli tout ça, mais en quoi ça s'applique à nous? Est-ce qu'on doit sortir du monde? Est-ce qu'on doit se couper de tout ce qui nous entoure? Est-ce qu'on doit refuser les contrats? Les alliances, hein, c'est des contrats, les contrats de travail, les contrats de logement, les contrats de... Non, on n'est plus du tout dans la conquête géographique d'un pays, il ne faut pas oublier. La Bible dit que ça nous sert d'exemple, comme les fables de La Fontaine. Mais on n'est plus dans la conquête d'un pays physique, géographique. On n'est pas non plus aux mains de gens qui ont épuisé la patience de Dieu par leur méchanceté et leur cruauté, bien que ça vienne. Mais on a aussi des ennemis à combattre. On a aussi des ennemis à combattre. Ils ne sont pas exactement les mêmes, mais ils se comportent un petit peu de la même façon. Et on va prendre certains versets. Mais en gros, je pense que je vais le faire, oui, maintenant. Nos ennemis à combattre, tous les chrétiens le disent, vous l'avez déjà entendu sur tous les tons, on a trois ennemis. Satan, nous-mêmes. Et le monde, l'esprit du monde ambiant. Hein, il ne s'agit pas du monde des gens, mais l'esprit ambiant du monde. Alors, pour Satan, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est mal. Eh bien, la solution avec Dieu est simple, pas toujours facile à mettre en œuvre. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. L'obéissance, c'est un gros mot. C'est un gros mot en France, et c'est un gros mot à notre époque. Soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire, quand il dit quelque chose, clairement, j'essaie de le faire. Et quand il me le répète, parce qu'il est patient avec moi, j'essaie d'obéir. Alors, personne n'est parfait, donc on n'y arrivera pas toujours, on n'y arrivera pas toujours très bien. Mais ne jugeons pas les autres, ne nous jugeons pas nous-mêmes. Mais disons, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à obéir, aide-nous à nous soumettre à ta parole. Cette parole, elle est toujours vraie aujourd'hui. Même si elle se présente parfois de façon, comme je l'ai dit, un petit peu étrange. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Et qu'est-ce que ça veut dire, résister au diable? Ah, ça vaut le coup de se poser la question. On le répète souvent, mais ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand Dieu, le doute vient dans mon cœur, Dieu a-t-il réellement dit? Eh bien, je résiste. Oui, Dieu a dit. Comment a fait Jésus au moment de sa tentation? Il est écrit. Et vous avez vu qu'il a résisté. Hein? Et c'est le diable qui est parti. Exactement, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. Il y a une autre arme qui est très difficile. Très, très difficile. Le doute, c'est déjà pas drôle. Mais il y en a une autre qui est très difficile, c'est le découragement. Comme dit la Bible, ne vous découragez pas de faire le bien. Et si elle dit ça, c'est parce qu'elle sait qu'on se décourage. On se décourage parce que il y a des gens qui critiquent, parce qu'on n'est pas reconnu, parce que nos enfants n'apprécient pas tout ce qu'on fait. Toutes les mamans connaissent ça. Oh, allez, prenez pas cette tête. Je suis sûre que vous l'avez déjà pensé au moins une fois. Ou alors, il n'y a que moi. Ils ne se rendent pas compte de tout ce que je fais pour eux. Moi, j'en ai marre. Bon, ok, je suis la seule alors. Ok. Ok. Et ce découragement-là, vous savez, il vous bouffe. Il vous bouffe de l'intérieur. Et là aussi, il faut résister. Non, non, je refuse de croire à ces mensonges. Ils ont un âge où ils ne se rendent peut-être pas compte, mais d'ici peu, ils vont s'en rendre compte. Et puis au fond, ils s'en rendent compte, etc. Mais résistons au découragement, résistons au doute. Et il fuira. Je me souviendrai toujours le témoignage d'Evelyne. Je suis désolée, Evelyne, mais ça m'a tellement frappée. Je crois que l'autre jour, quand je venais reparler, elle ne s'en souvenait même plus. Mais moi, je m'en souviens parce que ça m'a vraiment parlé. Elle disait qu'elle était en train de repasser et elle commençait à avoir des pensées négatives. 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 Vous savez comment c'est quand on commence... Bon, ça ne vous arrive jamais, vous d'accord. Quand on commence à avoir des pensées très négatives, et c'est vrai qu'on soit chrétien ou pas d'ailleurs, hein, c'est comme un trou sans fond. On descend. Et puis elle repassait, puis négatif, plus négatif, encore plus négatif. Puis d'un seul coup, elle s'est rendue compte. Et elle a dit, ça suffit, au nom de Jésus, je refuse ces pensées négatives. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a résisté au diable. Elle a obéi à Dieu qui dit de chasser ces choses. Hein, les Cananéens à déposséder. Allez, c'en est ça. Et dit d'un seul coup, elle s'est dit, mais pourquoi j'ai pensé si négativement tout à l'heure? Je me sens bien. Hein, c'est ce que tu m'as... Et son témoignage m'a frappée. J'ai dit, waouh, elle connaissait le Seigneur depuis assez peu de temps. Je me dis, voilà, elle m'a appris quelque chose. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Et puis, c'est vrai, mais je me dis, mais comment j'ai pu me déprimer comme ça, moi? Mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Voilà. Voilà, vous voyez, comme ça, les témoignages des uns et des autres, ça encourage. Alors, cet ennemi-là, c'est réglé. On en a un deuxième. Oi, oi, oi. Celui-là, il est plus compliqué. C'est notre chair, c'est nous. Notre caractère. Alors la chair, moi franchement j'aime pas trop ce mot-là parce qu'à notre époque il veut plus dire grand-chose. Mais c'est notre nature humaine, mon caractère, de quoi je suis fait, ma personnalité, toutes ces choses qui sont naturelles chez moi ou héréditaires. Et alors là la solution elle est un peu radicale, vous savez Jésus était d'une radicalité parfois qui surprend, crucifier la chair. Aïe! Ouh! Mettre à mort la chair. Ouh! Galates nous dit quels sont les fruits de la chair. C'est pas très joli, hein. Les jalousies, les querelles, les divisions, etc. Mettre à mort. Comment mettre à mort? Alors la maison d'Élie nous dit considérer comme mort. Une fois qu'on dit Seigneur, je suis comme ça. Je vais prendre le cas typique qu'on voit souvent parce qu'on passe tous par ces stades de la colère par exemple. Seigneur, moi j'ai un fond coléreux. Je suis facilement en colère. J'arrive pas à dominer ma colère. Eh bien, Seigneur, je le confesse, je te demande pardon, je décide que ça ne se reproduira pas, je ne veux plus rentrer dans ces colères avec ton aide, et je mets à mort cette colère, hein. Je considère comme mort, et après, je ressuscite les bonnes choses, la patience, l'amour de Dieu, voilà. Bon, je fais un résumé un peu rapide, allez voir les gens de la maison d'Élie, ils vous feront ça, impeccable. Mais voilà, crucifiez la chair. Ça veut dire vraiment, avec l'aide du Seigneur, confesser et laisser tomber ces choses et ressusciter toutes les bonnes choses que Dieu a mises dans notre vie. Alors, ok, on a la solution pour ces deux Cananéens-là, mais il y en a un autre, c'est le monde. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on vit dans le monde. Rappelez ce que Jésus a dit, je ne te demande pas de les retirer du monde. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dans des monastères, etc. Chacun son appel, mais dans l'ensemble... Dieu ne nous demande pas d'être retirés du monde. Donc là, ça complique les choses. C'est-à-dire que je dois vivre en ambassadeur dans un pays étranger, je ne dois pas m'imprégner de ses valeurs, mais je dois moi faire passer les miennes, et je ne dois pas être contaminée, et je dois tout le temps résister. Ouh. Alors résister, c'est un mot qu'on n'aime pas parce que c'est fatigant. Comme je vous disais la semaine dernière, j'aimerais tellement qu'on n'ait pas besoin de se battre. Résister à l'esprit du monde, c'est résister à ses façons de penser, à ses façons de voir. Alors vous allez me dire, mais ils ont des bonnes façons de voir quand même dans le monde. Oh oui, bien sûr, heureusement. Sinon, il y a longtemps que ce serait vraiment la galère, hein, ce serait le chaos. Mais il y a aussi beaucoup de façons de voir qui sont pernicieuses, des façons de penser. Regardez, ne serait-ce que cette pensée qui grandit de plus en plus par rapport à l'euthanasie. Voilà. Il y en a qu'on peut comprendre, mais il y en a qui deviennent limites. Par rapport à l'avortement, quand même des choses qui sont lourdes. Par rapport à l'être humain handicapé, s'il y a un doute, on avorte. S'il y a... Oui. Moi, je me souviendrai toujours, ça m'avait frappé. quand Sonite avait une perte de sang importante et que j'étais allée la rejoindre à l'hôpital. Et le médecin lui dit, bah, vous savez, voilà, faut mieux pas prendre de risques. Et il commence à lui faire une ordonnance pour, comment on appelle ça, comment ça s'appelle Non, l'examen avant pour savoir si l'enfant... Amniocentèse, merci. Et j'ai aimé sa résolution. Elle a dit, mais vous me faites ça pourquoi? Bah, parce que si c'est pas bon. Elle a dit ça, il n'en est pas question. Et le médecin est dans une colère. L'esprit du monde, pour lui, c'était inadmissible qu'elle puisse être aussi déterminée. Il a rageusement déchiré l'ordonnance. Mais rageusement. Il n'avait pas besoin, il pouvait simplement la mettre au panier. Mais il était... Et il a toisé du regard et... Elle a eu ce courage, elle n'a pas bougé. Et puis bon, vous avez vu Élise. Voilà. Oui, on m'a dit ça. Oui, il se fâche. Oui. Parce que pourquoi il se fâche? Parce que bon, après tout, voilà, on est libre, on est dans un pays libre. Mais parce que il est imprégné de cet esprit. Handicapé, on supprime. Bientôt, on supprimera les gens trop âgés, on supprimera. Voilà, c'est le risque. D'ailleurs, c'est les gens qui sont contre l'euthanasie, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, c'est cet esprit qui rentre tout doucement dans notre société. Hein, on admet encore qu'il y ait des gens qui pensent autrement, mais on les gronde. Et voyez maintenant ce que je veux dire quand je parle de l'esprit du monde. C'est cet esprit ambiant. Alors bon, il y a des cas, par exemple pour l'avortement, je pense après un viol ou des choses comme ça. Je mets ces cas-là à part. Je parle vraiment de l'esprit du monde qui, moi je me souviens, ma voisine trouvait qu'elle en avait assez comme ça. Et bon, elle a fait un avortement et ça ne l'a vraiment pas aidée psychologiquement. Mais voilà, c'est des choses qui pénètrent notre société. Les façons de voir, les façons de penser qui sont complètement contraires à celles de Dieu. Les notions de succès, par exemple. Il a réussi sa vie. Vous avez entendu ça? Oh, cet homme, il a réussi sa vie. Pourquoi? Il est riche, il a une belle voiture, il a une belle situation. Tu vois, sa femme pourrait faire du mannequinat, ses enfants sont très doués à l'école. Enfin bon, je ne sais pas. Mais c'est toujours une notion de succès qui n'a rien à voir avec la Bible. Il n'y a rien à voir avec la Bible. Bien que Dieu veut notre bonheur et notre succès, moi j'en doute pas, mais pas dans cet esprit-là. Le système D. Oh oui, la loi du somme, ça fait rien. Tu déclares pas ça aux impôts, de toute façon c'est pas grave, ils ont tellement d'argent. Et bon, moi ça j'entends ça. Ah, les artisans qui viennent chez vous, allez, je vous facture pas la TVA. Et quand on leur dit, ben non, on est chrétien, on est honnête, on paie notre TVA, il n'y a aucune raison. Oh bon. Le recours au mensonge, à la tricherie, c'est des choses qui passent. C'est toutes ces petites alliances qu'on fait avec les Cananéens, cet esprit du monde, et qui nous porte pas chance, qui n'apporte pas des bonnes choses dans nos vies. Bon, voilà, je vous ai donné une idée, l'esprit du monde, mais il y a plein d'autres exemples où on fait des compromis, on y reviendra peut-être la semaine prochaine. L'esprit mystique qui traîne parfois, du New Age. Justement, Olivier a laissé ce petit message en disant, voilà, j'avais trouvé quelque chose qui m'a plu, mais il y a un truc derrière qui n'est pas clair. Bon, et ça, on va le voir de plus en plus souvent. C'est, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu un Indien dans la ville, oui, bien sûr, vous avez plus de culture que moi, mais c'est... Oui, ben ça fait bien. Des trucs qui s'infiltrent comme ça, on ne sait pas d'où ça sort. Dans une société qui se veut rationaliste, on se dit, oh là là. Bon, et après, il y a les cultures locales, familiales, qui sont aussi imprégnées de cet esprit du monde. Enfin, j'en passe. Oui, dans ma culture, les jeunes n'ont pas leur place. Dans ma culture, on ne travaille pas à égalité avec des jeunes. Ah, que dit la Bible pour Timothée? Que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, je sais que, vu que je m'occupe des ados, on va dire, ah, Michel, elle protège ses jeunes. Eh ben oui. Vous n'aurez pas tort. C'est vrai, j'y pense. Parce que c'est une génération que je voudrais voir combattante. Voilà. Donc, protégeons-les, aidez-les, prions pour eux. Soyons indulgents, mais pas trop. et qu'ils deviennent des combattants. Qu'ils ne se laissent pas bouffer par les Cananéens. Et qu'ils ne s'amusent pas non plus à leur coller des impôts. Parce qu'un jour ou l'autre, ça se retournera. Voilà un peu mon idée. Je pense que je continuerai la semaine prochaine. Je ne vais pas aller plus loin. On a de la matière à réfléchir. On en reparlera la semaine prochaine. Mais que le Seigneur nous aide. Et relisez ces chapitres des juges. Relisez ces trois chapitres. Après, on passera à David. Hein, si j'ai fini la semaine prochaine, on passera direct à David. Mais je pense que le Seigneur veut nous parler là. Est-ce que parfois, vous n'êtes pas vous aussi lassés de vous battre? Ah non, il n'y a que moi, ok. On est lassé parce que c'est pas facile de maintenir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ah, il y a un verset que j'aime pas trop, moi. Veillez et priez. Priez sans cesse. Oh, mais Seigneur, on pourrait s'arrêter. On pourrait avoir un petit temps de ouh. Eh ben non. Parce que c'est comme ça qu'on a la paix. C'est comme ça que Dieu est avec nous. C'est comme ça qu'on est protégé. C'est comme ça que nos enfants sont protégés. Et malheureusement, cette génération-là, on va en reparler la semaine prochaine, elle n'avait pas compris. Et ça, j'ai parlé aux enfants la semaine dernière. Vos parents vous protègent par leurs prières. Donc vous êtes un peu sous cloche. Vous êtes sous protection. Mais vous ne faites pas d'illusions. Nous, on l'a senti quand ma mère est morte. Le poids de prière qui est parti. Les choses ont été beaucoup plus dures. Hein, il a fallu qu'on s'y mette. Hein. Donc, commençons dès maintenant. Veillons et prions. Alors, ce n'est pas un message marrant pour commencer l'année. Mais derrière, il y a des victoires. Et on ne se contente pas d'assujettir les problèmes et de leur faire payer des impôts, mais de dire, voilà, non, c'est fini, je repousse ces choses-là. Mais bon, une fois qu'on s'y est mis, je pense que ça doit être un petit peu plus facile, être toujours sur un pied de guerre. Ça, c'est... Franchement, moi, j'aime pas. Ça fait ringard, en plus, hein. Mais c'est la vérité, je crois. Il faut qu'on reste sur un pied de guerre, parce que là, on aura la paix intérieure, la paix dans nos familles, la paix dans l'Église, la paix dans notre entourage, si on reste sur ce pied de guerre de prière. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas trop, je sais simplement que ça marche comme ça, et que le Seigneur est avec nous, et qu'on va voir des belles victoires. Et que je prie, moi, que la nouvelle génération qui se lève, là, nos ados, ils rentrent, ils comprennent ça, ils rentrent dedans, et qu'à leur tour, ils nous entraînent. Parce que vous savez... Qui a créé le 24-7? C'est 24 heures de prière, 7 jours sur 7. C'était des vieux qui venaient de sortir d'Égypte. C'était qui a créé le 24-7? C'était un jeune Anglais, je crois. Hein, c'est ça? C'est un jeune Anglais? Ah non, non, le 24-7. C'était, oui, un ou deux. C'était des jeunes. Et qui est-ce qui a vraiment marché dans les 24-7? C'est ces 24 heures de prière, 7 jours sur 7. C'était des jeunes qui ont commencé vraiment. Hein. J'ai lu l'histoire, maintenant, bon, je n'ai pas une extraordinaire mémoire, mais c'était des jeunes. Alors, à mon avis, si les jeunes peuvent faire ça, on peut y aller, on rentre dedans. Et peut-être qu'on sera appelé à refaire des 24-7 dans l'église. Florence en avait organisé beaucoup, puisqu'il les faisait à la fac. Je crois qu'on peut recommencer. Veillons et prions, et on verra les choses changer.